Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir rejoints et d'avoir rejoint Jean-Christophe Ruffin pour un échange autour de son dernier roman, le tour du monde du roi Zibeline. Alors, Jean-Christophe Ruffin, on s'était vu il y a pas très très longtemps. Vous nous aviez offert un thriller humanitaro-balkanique, Checkpoint. Peut-être que certains étaient déjà là la dernière fois. On s'était également vu pour votre randonnée sur les chemins de Compostelle. Immortelle randonnée, ça remonte à 2-3 ans. Et puis on s'était vu également pour vos contes venus d'ailleurs. Mais vous êtes souvent à Bordeaux, à la fois votre œuvre prolifique et puis aussi le goût que vous avez de Bordeaux et le goût que les lecteurs donc de Bordeaux ont pour vous. Ce dont évidemment je me réjouis beaucoup. Alors le livre donc que j'ai entre les mains donc est un assez gros livre, mais qui se lit. Extrêmement bien, et j'avoue que le plaisir que j'y ai pris a été grand. Un livre d'aventure, Jean-Christophe Ruffin, de grande aventure, qui a pour cadre donc la fin du XVIIIe siècle, un personnage qui a été très très connu, très très connu, mais qu'on avait un peu oublié, enfin je dis on, que vous nous faites redécouvrir, mais qui passe pour avoir été, et là je vous suis, un des plus grands aventuriers, voyageurs de son temps et extraordinairement connu. Alors son œuvre en fait est disponible puisque ses mémoires sont éditées. Je crois que c'est Phébus qui les a éditées et ses mémoires en plus ont été rédigées en français, bien que l'auteur ne soit nullement un Français, mais qu'il soit né dans ce qui fut donc l'Empire austro-hongrois. Il est né à quelques à la frontière de la Pologne, de la Hongrie, de la Slovaquie. Et je crois d'ailleurs que les trois pays revendiquent la paternité de ce grand homme. Alors que ces aventures, et ça c'est toute la grande ronde de ce livre, que ces aventures vont mener jusqu'à Madagascar, ce qui évidemment n'était pas gagné pour un noblio du centre de l'Europe de la fin du XVIIIe siècle. Et donc vous nous racontez dans les circonstances extraordinaires qui ont fait de cet homme un roi de Madagascar. Comment Jean-Christophe Ruffin, est-ce que vous êtes tombé sur Wajowski? Vous l'aviez déjà rencontré par le passé, ou par quel hasard avez-vous eu envie d'avoir rencontré, puis ensuite eu envie de ressusciter sa mémoire?
D'abord, bonsoir à tous, et je suis très heureux d'être né. Bon, en tout cas, pour moi, c'est la première fois cette belle salle. Donc, oui, cette histoire de Wajowski, je la connais depuis presque 20 ans, en fait. C'est-à-dire, pratiquement depuis que je fais des romans, puisqu'au fond, cette année, c'est l'anniversaire pour moi. Enfin, c'est un anniversaire qui n'a pas beaucoup d'importance pour les autres. Mais enfin, pour moi, il revêt, évidemment, c'est une petite émotion quand même. Ça fait 20 ans que j'écris des romans. Voilà. J'ai publié mon premier roman qui s'appelait L'Abyssin en 1997. Et je me réjouis de voir qu'il est toujours, d'ailleurs, très lu, en poche. Voilà, c'est ce qui est pour un auteur un grand bonheur, parce que les livres aujourd'hui tournent vite. Peut-être pas dans une librairie comme Mola qui peut se permettre d'avoir un fond très vaste, mais dans la plupart des librairies, en quelques jours, quelques semaines, quelques mois au mieux, les livres disparaissent. Et les miens vivent, et puis je suis toujours là au bout de 20 ans. Alors, c'est ce que je dis aux jeunes qui commencent et qui sont tout contents d'avoir un succès. Je leur dis, attendez, il faut durer. Voilà. Et dans ce métier, c'est pas forcément évident. Et pour durer, il faut à la fois se renouveler et à la fois aussi être fidèle à des lignes, si je puis dire, de travail. Et ce livre-là, Zibeline, pour moi, il est dans une lignée qui est justement celle de l'Abyssin, celle de Rouge Brésil, celle du Grand Cœur, c'est-à-dire une lignée, au fond, un peu picaresque, avec des héros qui sont tous des héros solaires, des héros pleins de force, en fait, qui, moi, me font du bien, et j'espère en font aussi aux lecteurs. Alors, justement, celui-là, ce héros-là, moi, je l'avais repéré un peu par hasard, tout à fait par hasard même, au cours d'un voyage en Pologne. J'étais allé à Cracovie pour la traduction d'un de mes livres en polonais. Je crois que c'était l'Abyssin, du reste, puisque c'était tout le début de ma carrière d'écrivain, si je puis dire. Et j'avais rencontré là-bas un couple de franco-polonais, Vera Michelski, qui est bien connue dans les milieux de l'édition, puisque c'est elle qui est propriétaire de diverses maisons, notamment Phébus et Buchet-Chastel. Et son mari, Jan Michalski, qui était polonais et qui était un homme assez jeune, d'ailleurs, plein de vie, et qui est malheureusement mort peu de temps après d'une maladie foudroyante. Et c'est eux qui m'ont raconté ça. Et je vois encore la scène parce que c'était sur cette grande place de Cracovie, vous savez, où la tradition veut que soit joué sur une espèce de beffroi un morceau de trompette qui est interrompu au milieu d'une phrase musicale pour commémorer le moment où un cavalier mongol a tué, au Moyen-Âge, le héros qui jouait de la trompette et qui s'est donc arrêté au milieu d'une phrase percée d'une flèche. Et depuis lors, eh bien, on commémore toutes les heures avec ce morceau de trompette qui s'arrête comme ça. C'est très émouvant. Donc ça, les deux se mélangent. Et ils m'ont donc parlé de Benioffsky en me disant qu'il publiait ses mémoires dans une maison d'édition qui n'était pas encore Phébus, qui est la maison Noir sur Blanc, qui est un peu, qui existe toujours, et qui a fait, au fond, renaître un peu certains textes de cette littérature, notamment de voyage et de cette littérature franco-polonaise ou polonaise traduite en français. Voilà. Donc j'ai lu ses mémoires et ça a été un choc parce que j'ai trouvé, comme tout le monde, comme tous ceux qui découvrent ce livre, j'étais comme tout le monde. C'est-à-dire, je me suis dit, mais comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ce personnage qui, quand même, a côtoyé tous les grands de son époque, a une histoire absolument singulière. Et finalement, il a disparu de la circulation. Et ça, c'est toujours... Moi, ça m'intéresse toujours quand les personnages ont été victimes d'une injustice. C'est mon fond, c'est volé, voilà, qui me précipite au chevet de la veuve et de l'orphelin. En tout cas, je trouve que, pour un écrivain, c'est toujours stimulant de prendre la défense de quelqu'un qui a été maltraité. Voilà. Et lui, indiscutablement, avait été maltraité par l'histoire. Donc, voilà, je me suis dit, ben, c'est un personnage sur lequel j'ai envie de travailler. Mais... Vous savez, on ne sait pas pourquoi ces choses-là se déclenchent à certains moments plutôt qu'à d'autres. Et finalement, pendant 20 ans, je l'ai gardé avec moi. J'y revenais périodiquement, j'ai relu ses mémoires, j'y pensais souvent, mais je n'avais pas trouvé le moyen d'en parler. Et finalement, ça s'est produit l'an dernier.
Alors, vous avez donné un entretien donc à un grand hebdomadaire dans lequel vous apparaissez vêtu d'un tricorne et d'un manteau d'officier de la royale. Vous êtes parfait dans ce rôle. Et alors, évidemment, donc ça indique assez bien le ton et l'intention de ce roman, hein, parce que on prend la mer beaucoup, énormément, mais pas seulement d'ailleurs. On marche à pied, on traverse de grandes étendues terrestres, maritimes. Bon, vous nous emmenez vraiment autour du monde à une époque où et alors ça c'est peut-être le plus intéressant, c'est que c'est une époque d'exploration du monde. Mais d'avant la colonisation, en tout cas la grande colonisation que nous avons connue à la fin du XVIIIe, au XIXe siècle, au XXe siècle, c'est-à-dire une époque où les hommes d'Europe, les hommes et les femmes d'Europe, qui partent à la découverte du monde dans des conditions qui sont très très romanesques, acrobatiques et souvent dangereuses, mais animées d'un certain esprit. Alors c'est un petit peu ça qui m'a frappé, c'est l'esprit qui préside à cette découverte du monde. On va voir ce qui arrive aux personnages. Mais cette curiosité du XVIIIe siècle, elle rentre en cohérence et en écho avec l'esprit des Lumières, et vous inscrivez totalement le parcours de ce personnage dans ce qu'on appelle l'esprit des Lumières, puisque le début du roman, c'est l'enfance de ce personnage dans ce château d'Europe centrale, où il est le fils d'un noble militaire assez puissant, frus, assez brutal, mais qui a quand même une excellente idée, qui le confie à un précepteur, un précepteur français, qui arrive donc avec sa redingote et qui est en fait qui fait partie du mouvement des encyclopédistes. Alors ça, c'est très intéressant déjà comme entrée en matière.
Oui. Alors, en effet, quand Match m'a proposé de poser avec un costume qu'ils avaient loué dans le musée de la Marine, qui allait fermer d'ailleurs, j'ai un peu hésité parce que je me suis dit que je vais faire rire de moi. Mais en même temps, j'ai un peu l'habitude, parce que je suis quand même à l'Académie française, donc j'ai l'habitude de revêtir.
J'ai la pièce à conviction.
Mais non, mais c'est d'ailleurs en même temps, c'était amusant parce que, au fond. Je me suis dit que c'était l'expérience concrète qui correspondait à, au fond à l'expérience abstraite de l'écrivain. Je m'explique. J'ai eu vraiment l'impression de voyager avec ces personnages. Moi, quand j'ai écrit, c'était vraiment un bonheur. Je me suis beaucoup amusé, ça me plaisait. Mais j'étais toujours habillé comme ça et à ma table de travail. Et là, tout à coup, on m'a donné la possibilité, finalement, pour quelques instants, mais d'entrer vraiment dans le vêtement du personnage. Et je trouvais que c'était une expérience tout à fait agréable et intéressante, parce que là, l'identification est pratiquement complète et je me sentais très bien dans ce costume. Il est très...
C'est une idée pour les prochains romans, d'ailleurs.
D'écrire en costume, oui.
Celui que vous voudrez.
Oui. Alors, c'est pas d'une commodité folle, hein, quand même. Ils n'étaient pas vraiment taillés pour l'aventure, ces costumes. Mais enfin, bon. Non. En fait, ce personnage, si vous voulez, il avait... Il a eu une vie absolument extraordinaire et tous les événements qui sont relatés dans le livre, tous les épisodes de sa vie, sont des épisodes historiquement fondés. C'est-à-dire qu'il a effectivement fait ça, vécu ça, traversé ces pays. Il a donc été capturé par les Russes au cours de combat, déporté en Sibérie, il s'est évadé avec un bateau avec plusieurs dizaines de personnes. C'est là qu'il a rencontré la femme de sa vie, cette fameuse Afanassie, avec laquelle ils se sont enfuis, etc., etc. Tout ça, c'est donc authentique, si vous voulez. Mais... En même temps, je ne voulais pas, et c'est ça qui m'a bloqué pendant longtemps, je ne voulais pas raconter cette histoire d'une façon linéaire. Parce que, voilà, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, c'est agaçant, c'est pas très intéressant. Et je voulais donner surtout au récit une tonalité qui soit celle du XVIIIe siècle, une sorte de parfum qui est pour moi tout le charme de ce siècle, qui a été marqué et qui est toujours à travers sa littérature par d'abord un goût du conte. Le conte oriental a été une des formes littéraires les plus prisées au XVIIIe siècle, hein, avec les lettres persanes, avec je parle évidemment dans la patrie de Montesquieu, les contes de Voltaire, Les Mille et Une Nuits, etc. Donc il y avait, je voulais retrouver un petit peu cette dimension de conte, c'est-à-dire prendre un lecteur ou un auditeur un peu par la main et puis lui faire traverser un conte. Ça, c'est la première chose qui me paraissait caractériser le XVIIIe siècle littéraire. Et le deuxième trait de cette époque que je voulais restituer, c'était la conversation. Qui est aussi une invention française, dit-on, du XVIIIe siècle, c'est-à-dire cette idée qu'au fond, la vérité, si elle existe, ne peut procéder que de la confrontation de plusieurs points de vue, et en particulier de deux points de vue, et en particulier de dialogue entre des hommes et des femmes, qui est très la nouveauté de la conversation et sa fragilité, parce que c'est quelque chose qui est peut-être menacé aujourd'hui. Mais en tout cas, justement, c'est quelque chose qui vraiment appartient à cette époque. Et les livres de Diderot, par exemple, sont marqués par ce procédé, je veux dire, le neveu de Rameau.
D'ailleurs, il faut signaler que l'héroïne va d'ailleurs rencontrer Diderot, elle va se rendre chez lui avec son ami, et elle va avoir une conversation avec Diderot. Tout ça est très concret, bien sûr. Hein.
Oui, parce que c'est... oui, mais alors, si vous voulez, moi, c'est ça qui me bloquait, c'est-à-dire, c'était de parvenir à trouver une forme qui restitue tout ça, qui ne soit pas un récit qui... Je ne voulais pas paraphraser les mémoires, parce qu'il a écrit ses mémoires, bon, très bien, c'est un très gros livre, très, très, très détaillé, un peu dur sous la dent, un peu quand même, certains moments. Je ne voulais pas paraphraser les mémoires, et je ne voulais pas faire un récit à la troisième personne, qui soit une sorte de description bête et méchante de ses aventures. Donc, tout à coup, j'ai attendu longtemps, sans angoisse particulière, mais enfin, c'était resté comme ça dans un coin de ma tête. Et puis, l'an dernier, je ne sais pas, j'ai eu l'intuition, je me suis dit, mais il faut commencer par la fin pour raconter cette histoire. Il faut commencer par le dernier voyage. Le dernier voyage qu'ils ont fait, c'est celui qui les a amenés en Amérique. Et ça, c'est tout à fait historique aussi. C'est-à-dire que Benioffsky, Auguste, le héros, après tous ses déboires à Madagascar contre les Français, est parti en Amérique. Et il a rencontré là-bas, en fait, George Washington, qui s'est tout à fait étayé historiquement, puisque il a eu des entretiens avec Washington, qui était donc chef d'État, etc. Donc tout ça est consigné, évidemment, de façon très précise, pour lui demander son aide, et aussi pour lui proposer, d'ailleurs, son aide. C'est-à-dire qu'il lui a proposé à la fois de venir combattre pour l'indépendance américaine, enfin pour cette jeune république américaine, et puis en même temps, il a demandé l'aide des États-Unis pour Madagascar. Et là, tout à coup, je me suis dit, voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre le récit. C'est-à-dire qu'il faut le prendre un peu par la fin, mais c'est pas tout à fait la fin quand même. Et au lieu de prendre Washington, qui était un peu empaillé, enfin, qui était un militaire un peu ça, machin, il y a un personnage qu'il avait rencontré à Paris, et là, il a fallu... Petit glissement chronologique quand même, hein, de quelques mois en réalité, parce qu'il n'est rentré qu'après. Et je me suis dit, je vais lui faire rencontrer Benjamin Franklin. Pourquoi ? Parce que Benjamin Franklin était à l'époque ambassadeur informellement à Paris. Et puis il est rentré à Philadelphie. Et quand il est rentré en Amérique, il pensait qu'il serait acclamé par tout le pays comme le père de l'indépendance. Puis finalement... Bah, le pauvre, il n'a pas été très bien reçu, sauf dans sa ville. Et ça s'est même assez mal passé pour lui. Il était très amer. Lui qui avait fondé, qui avait créé la poste, notamment parmi les différentes inventions qu'il a eues, il avait créé la poste américaine. Outrage suprême, on lui a demandé de payer ses timbres. Enfin, vous vous rendez compte. Donc, il était vraiment amer et il s'embêtait, puis il était malade, puis il était... Et les descriptions de Franklin sur la fin de sa vie sont assez tristes dans cette maison de Market Street, etc. Et je me suis dit, voilà, tout à coup, il est là, il s'ennuie, etc. Et puis, tout à coup, il va voir arriver ces deux personnages jeunes quand même, hein, ils ont une quarantaine d'années, Auguste et sa femme, qui viennent lui demander quelque chose.
Et alors, au milieu de tous ces solliciteurs qui l'ennuient à mourir, tout à coup, une étincelle s'allume. Hein.
Oui, parce qu'il voit cette jolie femme, et Dieu sait qu'il a adoré la France à cause de ça, en particulier, des multiples aventures qu'il a eues en France. Cette jeune femme qui est très belle, qui est un peu parfumée, très bien élégante, etc. Et cet homme aussi plein de fougue, plein d'énergie et tout ça. Et ils vont lui raconter une histoire. Et alors, cette histoire... C'est l'histoire du roman. C'est une histoire qu'ils vont raconter à deux voix, c'est-à-dire chacun va donner sa version d'une partie de l'histoire et donc un peu corriger aussi celle de l'autre, parce qu'ils ont deux points de vue bien différents. Et ils vont raconter ça à cet homme qui, au fond, est un peu comme le sultan dans Les Mille et Une Nuits, c'est-à-dire que, bon, sauf que c'est lui qui est condamné, c'est pas Scheherazade, mais c'est ses douleurs qu'ils vont, au fond, soulager, et ils vont revenir plusieurs jours de suite pour raconter cette histoire. Et là, tout à coup, si vous voulez, j'avais trouvé la forme qui me convenait, parce qu'il n'y avait plus la monotonie de faire un truc, voilà, machin, 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 et j'étais comme Benjamin Franklin, j'avais envie de les retrouver, moi, le matin. Et j'avais envie qu'ils viennent me raconter leur histoire. Et j'ai écrit le livre dans la foule.
La question, c'est de savoir si le lecteur va réagir de cette façon-là, hein, s'il a envie de vous retrouver tous les matins ou tous les soirs. Et en fait, j'ai fait l'expérience, ça marche assez bien. Ça marche
assez bien. Je crois, ouais. J'en sais rien, j'espère. Je sais pas, il y a que vous qui puissiez le dire, mais il me semble que ça se...
Alors, vous m'avez répondu non, en partie, mais je vous avais parlé de la curiosité, de l'esprit de curiosité, parce que c'est ça qui frappe, c'est donc cet esprit des Lumières qui fait que ce personnage est frotté comme de l'esprit des Lumières par son éducation, grâce à son père, et puis aussi grâce à toutes ses expériences, grâce à des rencontres, à des lectures. Et puis, et donc il incarne, je suppose que vous avez voulu qu'il incarne cet esprit du 18e, qui est l'esprit de ceux qui aiment à la fois la conversation, la confrontation, qui découvre en fait un monde plus vaste que le leur, et qui à travers ce mouvement philosophique essaye de trouver des clés, hein, pour l'avenir. Alors est-ce que ce personnage qui est un homme d'action est aussi un homme et je parle aussi évidemment de sa compagne. C'est un couple de gens qui sont à la fois dans l'action la plus débridée, hein, c'est débridé, et en même temps qui sont toujours en train de prendre un peu de recul aussi, hein, sur leur...
Oui, mais ça c'est tout à fait conforme à ce qui ressort de ses mémoires d'ailleurs. Mais c'est surtout pour moi le véritable esprit aussi du XVIIIe siècle, le véritable apport du XVIIIe siècle d'un point de vue philosophique. Au fond, quand on regarde l'histoire de la philosophie, le XVIIIe siècle n'a pas apporté de théoriciens absolument nouveaux, je veux dire. C'est ce qui a caractérisé l'esprit des Lumières, c'était surtout de briser cette espèce de caractère un peu étriqué du rationalisme de Descartes, qui était toujours, finalement, Descartes philosophait dans sa chambre, et il se satisfaisait, et Pascal aussi, d'une certaine façon, il se satisfaisait de leur chambre et de leur petite vie. Le XVIIIe siècle va insister beaucoup plus sur les sens, sur la nécessité d'ouvrir les yeux, sur la nécessité d'aller voir. Et en disant finalement, et ça c'est je crois le vrai, véritable acquis de cette époque de la pensée, en disant qu'au fond il n'y a pas de raisonnement possible, il n'y a pas de raison qui ne se fonde sur l'expérience. Et sur le monde, et sur la perception du monde. Et donc, cette perception du monde, on va la chercher partout. Les encyclopédistes vont la chercher au coin de la rue, chez le boulanger, chez le boucher, chez le palefrenier, en allant voir l'encyclopédie, c'est ça. C'est on va voir, on va pousser la porte, comment vous faites le pain, comment vous fabriquez une selle de cheval, comment vous tannez le cuir, etc. On va voir. Bon. Et puis, on va voir loin, avec les explorateurs, avec Bougainville qui fait le tour du monde, qui rapporte cette espèce de vision extraordinaire des îles fortunées, des îles du Pacifique, avec les Tahitiens, et ça sera la mode des Tahitiens, tout le monde ça se traitera de Tahitiens, c'est une comme ça, et avec un goût, un appétit extraordinaire pour le monde, c'est-à-dire tout ce que le monde peut apporter nouveau et de différent.
En toile de fond, il y a La Pérouse, il y a Bougainville, il y a James Cook, il y a tous les grands explorateurs du XVIIIe siècle, il y a les grandes circumnavigations donc, autour du monde. Oui. Mais alors Bajowski, lui, finalement participe, il est peut-être pas l'égal de ces gens-là, mais d'une certaine façon, il a à son actif quelques découvertes, puisqu'on découvre par exemple que envoyé par le tsar en exil au Kamtchatka, donc c'est-à-dire la dernière grande presqu'île à l'extrémité de la Sibérie. Il va donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'enfuir en bateau. Et là, au lieu de partir vers les mers chaudes, ce qu'on aurait pu imaginer, il part au contraire dans l'autre sens. Et là, il va vers le détroit de Bering. Et là, c'est comme une exploration, finalement, une exploration de géographe. Jusqu'où peut-on aller? Est-ce que la Russie et la future Amérique se touchent? Est-ce qu'il y a ce passage du Nord-Ouest, dont on a entendu parler mais qu'on ne connaît pas? Enfin, il a là, alors un peu contraint et forcé, il faut dire, parce qu'il a plutôt envie de partir vers le sud, mais il fait partie de ces grands explorateurs.
Oui, mais toute cette partie sibérienne de son aventure, de sa vie, est très très importante, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé.
Et pas seulement parce qu'il y rencontre sa future.
Non, mais alors, donc il est déporté, il est exilé là-bas. La Russie à cette époque envoie des bannis dans toute l'Extrême-Orient pour finalement peupler cet Extrême-Orient. Ces bannis, ils sont pratiquement libres parce que de toute façon, ils sont prisonniers de l'immensité des lieux. Donc finalement, ils ont une vie un peu sociale. C'est souvent des gens d'ailleurs qui avaient des positions assez élevées à la cour ou qui étaient très éduqués. Il y avait des médecins, il y avait des professeurs, il y avait de tout. Et ils arrivent là, et puis ils tombent sur des gens qui sont à peine mieux qu'eux, qui sont pas tellement plus confortablement installés, c'est-à-dire le gouverneur. C'est-à-dire qu'au fond, les geôliers et les prisonniers ne sont pas dans une situation...
Tout le monde est un petit peu logé à la même enseigne.
Bah, tout le monde a froid, tout le monde est un peu dans la précarité, et...
Quand vous êtes un prisonnier, vous arrivez. En fait, on vous emprisonne pas. On vous permet de construire une cabane. On vous donne même quelques outils pour assurer, parce que vous devez assurer votre subsistance.
Voilà, c'est ça. Ils devaient se nourrir. C'est-à-dire qu'ils arrivent, on leur donnait des armes, en leur disant bon, maintenant vous allez chasser, puis vous allez vous trouver à bouffer, puis vous allez vous construire une cabane, et puis voilà, qui était souvent faite en os de baleine, etc. Donc ils vivaient comme ça, et beaucoup de gens d'ailleurs se sont fixés en Sibérie, ont eu des enfants, ont été libérés finalement. Où ont fini par purger leur peine et sont devenus des hommes libres, mais sont restés là-bas et ont pu ensuite faire même des carrières dans l'armée, etc., dans l'administration.
C'est un peu le même phénomène qu'on a vu par exemple en Australie avec les bagnards envoyés par l'Angleterre, en Tasmanie ou dans le sud de l'Australie.
C'est ça. Mais alors ils sont mélangés dans ce Kamtchatka avec des marchands et avec des trappeurs. C'est-à-dire les trappeurs parce que ce sont des pays à fourrure. Il y a d'ailleurs presque plus déjà de fourrures précieuses à cette époque-là en Sibérie, parce qu'elles ont été trop chassées, les bêtes ont été beaucoup trop chassées. Et alors,
D'où le zibeline du titre. Vous allez nous expliquer. Oui.
Voilà, ben justement. Alors, la zibeline étant évidemment la bête la plus précieuse parmi toutes ces fourrures. Et alors, ce qui est étonnant, et ça, c'est l'histoire aussi, c'est l'histoire véridique, hein, c'est que ce gouverneur avait une fille, un fanazi, qui était une jeune fille qui, évidemment, n'était pas très contente d'être là, il faut bien le dire, qui voyait passer tous ces bagnards, tous ces exilés, qui ne trouvaient pas tellement d'intérêt à leur contact. Et puis, tout à coup, elle voit arriver Auguste. Elle voit arriver ce Beniowski qui a un charisme extraordinaire, qui a au fond pris l'ascendant sur tous ses compagnons pendant ce voyage de plus d'un an qu'il a conduit là, à travers la Sibérie, à pied, en traîneau, dans des barques en écorce de bouleau, enfin vraiment des conditions très très dures, avec certains moments où ils ont mangé pratiquement des mousses, enfin ils étaient vraiment. Donc il arrive et lui il a vraiment, bref, elle tombe amoureuse de lui tout de suite. Voilà, pouf. Et ça, c'est tout à fait historique. Alors lui, il est content, n'est-ce pas ? Mais au fond, il trouve ça presque normal. Il a une assez haute idée dans la vie réelle de son charme.
De sa séduction. Oui.
Voilà. Et en race campagne, en Sibérie, tout à la fille du gouverneur, bon, pourquoi pas, allons-y. Donc, elle tombe amoureuse de lui, éperdument, et elle va faire tout le travail. À la fois pour faire de lui un homme libre, parce que c'est un gros problème, c'est-à-dire qu'aimer un bagnard, c'est compliqué. Quand on est la fille du gouverneur, elle ne peut...
Alors, elle trouve un excellent moyen, d'ailleurs, de le rencontrer. Elle va lui demander de lui donner des leçons de français.
C'est ça, des leçons de français. Puis alors, après ça se complique, parce que... Il est obligé de les donner à d'autres jeunes gens, donc il est des leçons collectives. Alors après, elle lui dit, on va faire des leçons de musique. Donc lui, il ne connaît absolument pas la musique, mais il dit pas de problème. Et il fabrique avec des os de baleine une harpe dont il sait absolument pas se servir, avec des boyaux de chien. Et en se servant de cette harpe, il obtient effectivement
quelques sons,
mais surtout un contact plus privé, si vous voulez, avec sa jeune élève, ce qui lui permet non seulement de lui apprendre la musique qu'il ne connaît pas, mais de lui chanter probablement quelques autres airs plus envoûtants. En tout cas, elle fait tout le travail. Voilà. Et lui s'attache à elle, bien entendu, je pense qu'il... Mais il est certainement, au début, beaucoup moins amoureux d'elle qu'elle ne l'est de lui. Et elle va faire vraiment un travail considérable pour l'aider à s'évader, l'aider à devenir libre d'abord, dans son statut d'homme libre, si vous voulez. Puis ensuite, pour l'aider à s'évader, cette évasion va mal se passer. Le père, qui n'est pas vraiment le père, enfin bref, je pourrais tout raconter, il laisse la peau. Bref, elle s'évade avec lui et ils partent en volant un navire, et ça c'est tout à fait authentique, un navire d'un trois-mâts, qui, donc c'est pas rien, quand même plus de 80 personnes sur ce trois-mâts, bon, on fait rien à moitié, et ils partent. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils partent avec qui ? Ils partent avec des bagnards, mais ils partent aussi avec des trappeurs. Et ces gens-là, au fond, n'ont pas vraiment envie de quitter la zone russe, parce que c'est leur monde, c'est leur monde. Et donc, ils veulent rester dans ces îles, finalement, au voisinage du Kamchatka. Lui, Beniowski, il veut aller en Europe, mais les autres, non, ils veulent plutôt rester dans le coin. Et ils découvrent ces îles aléoutiennes, qui sont des îles qu'on appelle des îles à fourrure à ce moment-là, parce qu'il y a eu peu de chasse. Et alors là, les Yvelines, les martres...
C'est l'Eldorado du trappeur.
Il y a des bêtes à fourrure partout. Et donc, ils font une chasse absolument miraculeuse. Ils mettent des fourrures plein le bateau. Et les autres disent, mais on veut continuer vers le nord. Alors, il est désespéré, Beniowski, parce qu'il ne voit pas bien ce qu'ils vont aller faire par là. Et il continue de monter, de monter, de monter jusqu'au 60e parallèle. Et là, le gouvernail gèle, les cordages gèlent. Ils rencontrent des icebergs. Ils sont obligés de tirer au canon sur les icebergs pour pouvoir passer au milieu, etc. Enfin, des situations. Et au bout d'un moment, il leur dit, écoutez, les gars, ça suffit. On pèle de froid. On va finalement se faire prendre par la glace. Donc, ça va aux histoires. Et finalement, ils virent vers l'Alaska. Ils passent en Alaska. Ce qui est très intéressant, vous l'avez mentionné, c'est que cette partie du monde, à l'époque, est à la fois inconnue et l'objet de convoitises de toutes les puissances, des grandes puissances du monde. Parce que pour les Russes, c'est évidemment leur Far West, c'est leur terre de développement. Ils viennent d'atteindre ces mers et ils s'y déploient. Ils peuplent même d'ailleurs l'Alaska. À l'époque, les colonies russes vont jusque ce qu'on appelait la Californie, c'est-à-dire en tout cas tout le long de la côte de l'Alaska. Pour les Anglais, c'est très important aussi, et Cook va venir quelques années plus tard dans les mêmes parages, parce que les Anglais viennent de perdre les États-Unis, d'une certaine manière, viennent de perdre. Oui. Les colonies américaines viennent d'être indépendantes, et d'une certaine façon, c'est une manière de rentrer par l'autre côté, si j'ose dire, hein, d'explorer la côte ouest. Bon. Les Espagnols s'y intéressent beaucoup aussi. Et les Français également,
qui s'intéressent encore et qui, avec ce traité de 1763, ont perdu aussi pied aux États-Unis et donc qui s'intéressent à l'autre côté de la même manière. Et alors lui, donc Majowski, donc on a mentionné le fait qu'il était d'Europe centrale, mais qu'il avait appris le français. À l'époque, évidemment, la France est un pays phare. Hein, pays phare, c'est une monarchie très puissante. La langue française est parlée partout. Donc là, culturellement, bon, c'est vraiment un phare. Et donc il a pour la France une espèce de goût presque romantique, mais en fait il n'y a jamais mis les pieds. Et donc en fait il va vouloir se rendre en France, et donc il va finir par y arriver après beaucoup de péripéties qui vont le mener donc en Chine, au Japon. Enfin c'est un vrai tour du monde. Et alors les relations avec la France sont vraiment au cœur de ce roman. C'est-à-dire que les relations avec la France, il arrive en France, il va découvrir Paris, sa jeune compagne et bientôt femme va aussi découvrir Paris, mais là aussi les choses vont se passer de façon très 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 contrastée, on va dire. Hein. Alors ça fait partie des mémoires, c'est-à-dire que
oui, tout à fait, hein, tout à fait.
C'est-à-dire qu'il se met au service de la France, mais ça va pas toujours très bien se passer.
C'est-à-dire d'abord c'est presque miraculeux pour lui d'être arrivé jusqu'en France, parce que si vous voulez, imaginez-vous ces gens qui s'évadent d'un bagne, qui n'ont rien. En fait, les seules richesses qu'ils ont embarquées sur le bateau, c'est ces fourrures. D'ailleurs, c'est ce qui va leur servir de monnaie d'échange partout où ils passent. Ils vont s'arrêter dans des îles qu'ils découvrent, qu'ils ne connaissent pratiquement pas, enfin, dont ils connaissent vaguement l'existence sur des cartes très, très imparfaites. Par exemple, le Japon est à l'époque fermé aux Occidentaux, sauf les Hollandais qui ont un comptoir à Nagasaki.
Mais
le Japon...
Et en plus, si vous êtes chrétien et que vous arrivez au Japon, vous risquez votre peau. Hein.
Tout de suite, on vous... Et lui, pour des raisons que je... Il entre et il aborde quand même les côtes du Japon. Et il entre au Japon. Et là, il tombe sur un petit noble, un petit roi du Japon qui n'est pas au courant non plus que c'est interdit. Et finalement, ça ne se passe pas si mal. Donc, il découvre le Japon. Ensuite, il va faire la même chose sur plusieurs îles. Il y a les
Kuril, Formose,
etc. Formose et tout ça, et jusqu'à Macao. Voilà. Et puis à Macao, là, ils vendent le bateau qu'ils ont volé et ils vont faire d'abord des uniformes rouges. C'est assez marrant. Ils vont s'habiller, ça donner un peu une allure comme ça. Et ils vont partir sur un bateau français de la Compagnie des Indes pour aller jusqu'en France. Ce qui est très intéressant, d'abord, c'est que tout ça est très lent parce que il faut des années pratiquement hein, pour faire des parcours pareils. Ils n'ont rien. Il y a plusieurs épisodes qui sont tout à fait authentiques où ils ont failli mourir de soif et de faim parce que ils ne s'étaient pas ravitaillés comme il fallait. Ils ne trouvaient pas d'île, ils ne trouvaient pas d'endroit pour. Et voilà, donc ils ont échappé à la mort de mille manières. C'est absolument incroyable. Et cette femme qui partageait sa vie, si vous voulez, comme d'autres femmes, il y avait d'autres femmes d'ailleurs sur le bateau, comme d'ailleurs dans les mémoires de Bougainville, hein, c'est intéressant. Dans Bougainville, on trouve des femmes dans les bateaux, souvent qui sont déguisées pour suivre leur mari. Enfin, bref, en tout cas, imaginez quand même les souffrances que ça représente. Mais ils ne perdent jamais cette espèce de force que moi j'adore et qui dans les héros de cette époque, c'est-à-dire que ce sont des gens qui traversent des moments vraiment durs, mais qui n'ont aucun moment l'apitoiement d'eux-mêmes. C'est pas des héros romantiques, ils nous en font pas des tonnes sur les malheurs du destin, etc. C'est pas des héros contemporains, encore moins. Alors là, on aurait que de la que oui pour les chats.
Oui, vous insistez pas beaucoup d'ailleurs sur ce côté, ces couleurs.
Non,
vous insistez peu parce que ça correspond pas.
Parce qu'ils sont tout le temps. Ouais. Ils sont tout le temps portés par quelque chose de... C'est mozartien, si vous voulez. Voilà, il y a quelque chose de mozartien chez eux. C'est-à-dire que il y a des moments difficiles, le destin peut être très, très cruel, etc. Mais c'est toujours beau. C'est toujours...
C'est un quasi contemporain de Mozart, d'ailleurs, parce qu'il est né, il est né en 1746. Il meurt très jeune, il meurt à 40 ans, avant la Révolution.
Il y a cet esprit-là. Et si on devait trouver une musique pour mettre en musique ces moments, c'est un opéra de Mozart. C'est l'enlèvement au sérail. Enfin, c'est voilà. Et effectivement, ils arrivent à Paris. Ils arrivent à Paris. Et alors là, ils ont fait deux voyages à Paris. Le premier, donc, quand ils arrivent de Chine, etc. Et puis le deuxième, quand ils reviendront après l'épisode malgache. Mais le premier épisode à Paris, c'est un épisode très heureux parce que d'abord, Paris va bien. La France va bien à ce moment-là. C'est encore Louis XV le bien-aimé, vous savez. C'est encore la période où il y a une sorte de lune de miel entre la monarchie et le peuple, etc. C'est un roi aimé, avec une certaine harmonie. Et puis surtout, à travers justement les philosophes, il y a ce goût pour les explorateurs. Et donc, eux, on ne peut pas rêver d'explorateurs plus flamboyants que Benioffsky et sa femme. Donc, on les invite partout. On les invite pour raconter leurs histoires. Et donc,
sont un peu difficiles à croire, mais enfin, ils arrivent assez bien.
Oui, alors ils se rendent compte d'ailleurs que ça va être une des difficultés, c'est d'être cru, parce que tout de suite, il y a une suspicion. Et je dois dire que, par exemple, même l'épisode sibérien, si vous voulez, a été parfois mis en doute et tout ça, alors que les historiens russes qui ont beaucoup travaillé sur cette... parce qu'il est très, très célèbre en Russie, en Europe centrale. C'est vraiment un personnage absolument...
On a crédité tout ce qu'il a pu raconter
absolument,
sur
oui,
son
par exemple,
exil au Kamtchatka.
Oui, par exemple, certains de ses compagnons d'exil et de fuite même, avec lesquels il s'est disputé. Il les a débarqués, parce qu'ils se sont... Il y a eu des querelles très graves. Il en a débarqué sur des îles, notamment un qui s'appelait Ismailov, peu importe. Et quand Cook est arrivé... Cook est tombé sur ce type qui lui a raconté l'histoire de Benioffsky, qui était un survivant de l'épisode. Voilà. Donc, on a très, très, très précisément vraiment certifié tout ça. Mais enfin, bon, peu importe.
Et du coup, sa réputation est rapidement crue, puisque vous dites vous-même qu'il fut vraiment l'un des personnages les plus en vue de ce monde.
Il apportait, si vous voulez, cette nourriture intellectuelle formidable qui était la découverte de zones, de régions où personne n'avait mis les pieds. Alors, il l'a fait de deux manières. Il l'a fait de façon, j'allais dire, presque rétribuée. C'est-à-dire qu'auprès du roi et du ministre de la Marine français, il a, d'une certaine manière, vendu les secrets de tout ce qu'il avait vu dans sa navigation, etc. Les Français, ça les intéressait beaucoup. C'était des renseignements stratégiques, si vous voulez. Ça, c'est une chose. Et puis, par ailleurs, il racontait des tas de trucs plus folkloriques, plus pittoresques, sur les îles dans lesquelles il avait abordé, etc. Et ça ne manquait pas. Et finalement, c'était une sorte de Bougainville bis, quoi. Enfin, c'était... Avec ce bonheur qui faisait...
Mais dont on se méfie un petit peu, parce qu'il pouvait être à la fois un espion, éventuellement. Ce qui l'a beaucoup aidé, c'était d'être de la noblesse, quand même. Donc, sa noblesse a été reconnue. Mais en même temps, évidemment, son parcours et tous les contacts qu'il a pu avoir, et notamment en Russie, font que on se demande... On a pu se demander quelles étaient ses motivations, à un moment donné.
Oui, c'est-à-dire que les Français... ont pris ces renseignements, ils les ont utilisés. Lui, ce qu'il voulait, c'était une mission, c'était servir le roi de France, c'était son rêve. Voilà. Et il a dit, au cours de tous mes voyages, j'ai vu des endroits où il avait passé presque des accords déjà, à Formos notamment, pour établir un comptoir là-bas, etc. Donc il a demandé à repartir à Formos ou à repartir au Japon.
Parce qu'il a un côté diplomate, négociant.
Il voulait choisir son endroit. Lui, ce qui l'intéressait, c'était l'Extrême-Orient asiatique. Il voulait repartir là-bas pour prolonger les comptoirs de la Compagnie des Indes orientales et les prolonger. Et les Français, ça les intéressait. Ils l'ont fait, d'ailleurs, puisqu'ils ont envoyé la Pérouse. Mais ils ne voulaient pas confier une mission aussi stratégique à un type aussi bizarre. Parce que, malgré tout, il était quand même pas... C'était quand même un ancien bagnard qui s'était évadé, qui avait fait les 400 coups sur son bateau, le coup de feu, qui s'était... Qu'est-ce que c'est que ce type ? Et donc, Alors, comme il était très insistant et qu'il fallait quand même se débarrasser de lui, le roi lui a dit « Eh ben, mon petit gars, allez donc à Madagascar ». Et on l'a envoyé à Madagascar. C'était pas une faveur. Lui, il a pris ça comme une faveur. Il s'est dit « C'est magnifique », etc. Mais non, c'était pour se débarrasser de lui.
Madagascar, où d'ailleurs, il n'avait pas abordé lors de son premier périple. Hein, donc il ignore tout.
Il avait
tout.
Fait escale à Fort Dauphin, qui était à l'époque une sorte de pointe de
point d'extrême, oui. Ouais. Enfin, il n'avait pas découvert, évidemment, la grande île.
Non, non.
Et alors, à l'époque, la France est installée à ce qu'on appelle l'île Bourbon, et puis à l'île de France, c'est Maurice, l'île Bourbon, c'est ce qui deviendra la Réunion. Donc, la France a des positions dans l'océan Indien, mais donc elle regarde Madagascar, évidemment, avec des grands yeux, intéressée. Mais pour la France, Madagascar, c'est plutôt une terre pour faire du commerce, et puis surtout aller chercher des esclaves, puisqu'on est, on est encore en pleine période de la traite. La traite est contestée, mais elle est toujours pratiquée. Elle le sera jusqu'encore pas mal d'années. Et donc Banjovski, lui, va débarquer un des premiers finalement à Madagascar. Enfin, il va plutôt être un des premiers à s'enfoncer dans l'île, dans une île qui est quand même considérée comme très dangereuse, hein, très dangereuse.
Un petit mot sur la France, parce que voilà. Alors pendant son séjour, c'est important. Il y a un rééquilibrage des relations avec sa femme, avec Afanasy, parce que. Jusque-là, c'est elle qui était en admiration devant lui, qui avait fait tout ce qu'il fallait pour qu'il se libère, pour qu'il... Voilà, au fond, elle avait fait tout le travail, et au fond, elle était amoureuse, puis lui, bon... Et ça a culminé au moment où, quand il a su qu'il devait partir à Madagascar, il lui a dit, écoute, tu vas rester là, t'es pas mal, moi, je vais aller à Madagascar, je te donnerai des nouvelles, bien entendu, puis je reviendrai, voilà. Alors là, non, c'était pas ça, quoi. C'était pas ça du tout, elle voulait pas ça. Elle voulait des relations plus équilibré, sans savoir que c'était possible d'ailleurs tellement, parce que elle avait assez peu d'expérience de la vie. Mais à Paris, en France, elle va en acquérir. Et elle va se faire notamment une copine qui va lui montrer un petit peu que voilà, qu'il y a peut-être d'autres moyens. D'abord que cet Auguste là, il se prend un petit peu pour un autre.
Hein, comme il va falloir le faire redescendre un peu sur terre. Hein.
Voilà. Voilà, faudrait peut-être un petit peu qu'ils prennent conscience de l'amour, ça se fait à deux, hein, c'est-à-dire qu'il faut peut-être aussi quand même qu'ils... Voilà, et donc elle va le rendre un petit peu jaloux, elle va organiser quelque chose qui va montrer que, bon, tout ça n'est pas forcément acquis, et leur relation va s'équilibrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se rendre compte qu'en fait, à quel point il tient à elle, il va se rendre compte qu'au fond, tout n'est pas comme ça, tout tombe tout cuit. Leur relation va s'équilibrer. Et au fond, la suite du voyage, et notamment à Madagascar, ne sera pas faite du tout sur les mêmes bases. Elle va prendre vraiment une part beaucoup plus importante dans les décisions, dans l'action, et notamment dans l'analyse de ce qui se passe. Parce que lui, au fond, il a ses deux côtés, le côté guerrier, puis le côté philosophe, etc. Mais enfin, fondamentalement, son premier réflexe, c'est quand même le guerrier. Et quand il arrive à Madagascar et que les autres lui tirent dessus, les malgaches lui tirent dessus, parce que personne n'a envie de le voir s'installer, son premier réflexe, évidemment, c'est de se battre. Et c'est ce qu'il va faire. Et tout le début de l'installation à Madagascar va être très, très dur. Ils sont dans un endroit, c'est un coin, je suis allé là récemment voir l'endroit où il était mort et tout ça, c'est pas facile, hein, même encore aujourd'hui, pour atteindre la zone où il est mort, il faut faire 40 km de piste, moi j'ai mis 5 heures hein, de voiture. Et 5 heures pour 40 km, à un moment donné ils m'ont dit si vous voulez vous détendre, vous pouvez marcher à côté de la voiture, c'est aussi bien. Donc, voilà. Alors, imaginez-vous, à l'époque, c'était quand même très, très difficile. Et puis, il y a les cyclones, et puis il y a... c'est très dur. Donc, il s'installe là, et au début, il s'installe pour se battre. Et c'est elle, petit à petit, qui va changer un petit peu l'approche, et qui va, au fond, le conduire à une attitude différente,
oui.
Qui va complètement, au fond, le rapprocher des malgaches, et... l'éloigner des Français, parce qu'au fond, il va se rendre compte que les Français se...
Alors c'est vraiment le cœur du roman, hein, Madagascar, le roi Zibeline, parce que donc cet homme est roi. Alors on se demande par quel miracle et par quel artifice. Un roi malgré lui, d'ailleurs. Hein. Alors parce que donc c'est tout l'intérêt de ce personnage. C'est finalement, et sa femme joue un rôle important dans cette métamorphose, c'est qu'il n'a absolument aucune intention, évidemment, de se parer d'une royauté quelconque. Et pourtant, ça va être nécessaire pour établir sa situation à Madagascar, qui est extrêmement précaire, hein, fragile, précaire. Et en fait, cet homme va être reconnu. Alors, je ne sais pas s'il faut raconter les détails, mais de la manière
dont... Si vous racontez tout, ils ont pu les
voilà, dire. De la manière dont il va se retrouver, juché sur un trône. Mais l'intérêt, c'est de montrer que les contradictions dans lesquelles il se trouve face à une aventure qui est une aventure dangereuse où il manque évidemment de laisser sa vie à plusieurs reprises. Et en même temps, c'est une très bonne entrée dans l'histoire de Madagascar. Et je crois que Benjovski continue à être considéré comme un des pères très lointains de l'unité malgache. Pourquoi ? Parce que cette île est une île où il y a énormément de peuples et de tribus qui sont. L'île est très grande et donc on peut se battre. Et puis nous, quand on a fini de se battre, se tailler des fiefs. Et donc c'est une île très compliquée. Mais aussi peut-être assez intéressante à coloniser, entre guillemets, parce qu'on peut diviser pour régner.
Hein. Oui. Alors, il faut les laisser raconter l'histoire.
Voilà, alors là, l'histoire, parce je ne que... raconte pas, mais c'est...
Non, mais je dis ça parce que vous voyez dans quelle difficulté j'étais. C'est-à-dire que raconter l'histoire comme on le fait là, au fond, on s'est passé à côté, finalement, du charme, au fond, de cette aventure. Parce qu'au fond, c'est leur mot qui est important, c'est leur perception, c'est leur rapport, c'est leur... voilà. Mais donc, je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, vous l'avez très bien résumé, mais je veux dire, je ne vais pas en rajouter par rapport à ça. Je pense simplement que ce qu'il faut juste dire, c'est qu'il faut juste... ce que j'ai envie juste d'ajouter, qui n'est pas dans le livre ou qui n'est pas expressément dans le livre, c'est que ce qui fait tout l'intérêt de ce personnage, c'est justement qu'il ne sera pas un colon classique, si je puis dire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va tout le temps, en tout cas, parce qu'au début, oui, mais qui ne va pas tout le temps chercher à dominer, chercher à conquérir. Assez rapidement, il va entrer dans des relations différentes avec ces peuples, et notamment des relations de fraternité, finalement. C'est une des raisons pour lesquelles il va en Amérique, d'ailleurs. Il va en Amérique parce que, au fond, il rapportera des États-Unis un modèle de constitution qu'il va essayer d'utiliser à Madagascar. C'est absolument étonnant au XVIIIe siècle. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt et tout le charme de cet épisode, c'est que finalement, c'est un rendez-vous manqué de l'histoire où ce personnage, parti pour servir les intérêts des Français, finira par se retourner contre eux, prendre le parti des Malgaches, au point que les Français vont finalement l'éliminer. Mais dit comme ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est plus intéressant, la seule chose qui, moi, m'intéresse, c'est d'en faire un roman, c'est-à-dire de montrer comment ces évolutions, ces épisodes, ces changements s'inscrivent dans le progrès d'une conscience, dans des émotions, dans des passions, dans des choses qui sont humaines, si vous voulez. C'est pas une aventure intellectuelle, en tout cas pas seulement. C'est une aventure presque charnelle. C'est l'aventure de deux personnages, entre autres, qui sont des personnages totalement impliqués dans, à la fois dans leur relation entre eux, puisque entre elle et lui, il y a vraiment un amour extrêmement profond, mais aussi dans cette découverte du monde, dans cette interaction avec le monde. Voilà. Et c'est pour ça que, si vous voulez, je crois qu'il faut... Enfin, en tout cas, moi, je ne voulais pas le raconter de façon...
D'ailleurs, il y a plusieurs choses qui vous permettent d'arriver à vos fins. D'abord, vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez faire raconter cette histoire à deux voix. Donc, effectivement, on a une alternance de chapitres. Alors, vous arrivez d'ailleurs à parler comme un homme, et je ne dis pas parler comme une femme, mais en tout cas, à vous mettre dans la peau d'une femme, en tout cas, donc pour apporter une tonalité un peu différente. La deuxième chose, c'est que vous avez mentionné aussi, c'est le fait, c'est cette mise en abîme avec, avec le personnage de Benjamin Franklin à qui l'on raconte l'histoire. Donc
et il y a qui des, devient un acteur.
Voilà, qui devient un acteur lui-même du roman, et donc avec des épisodes un peu cocasses, dans la façon dont l'histoire est racontée, dans la façon dont il réagit, et dont l'entourage de Benjamin Franklin réagit, pas forcément très bien. Et puis la troisième chose, c'est aussi que vous avez décidé de parler un peu la langue du 18e, c'est-à-dire d'écrire un peu la langue du 18e, alors sans apprêt, sans exagération, mais vous avez quand même voulu nous rendre un peu ces tournures du français de l'époque, ces tournures de phrase, cette façon de parler qui est assez chaude et assez typique. Comment vous l'avez abordé, en lisant les mémoires, évidemment, en lisant les mémoires de Banjovski, que ça vous est venu,
non,
j'imagine.
Mais moi, j'ai été élevé par des grands-parents et notamment un grand-père qui était au fond un homme du 18e siècle, en fait, d'une certaine manière, enfin, et qui m'a toujours parlé une langue comme celle-là. Ce qui fait que d'ailleurs, au début, quand j'ai commencé à écrire, spontanément, j'avais beaucoup de mal à le faire dans une langue moderne, si je puis dire, alors que je parle dans une langue moderne, mais c'est cette forme, c'est ce rythme, ces phrases du 18e siècle, cette langue très particulière, assez proche du latin, en fait, avec ses périodes, etc., qui me vient naturellement. Et moi, je n'ai pas eu à me forcer. J'ai écrit le livre très, très naturellement, sans vraiment me forcer, d'autant plus qu'il s'agissait de faire parler des personnages. Donc, au fond, c'est à la fois une langue parlée et en même temps avec ce petit décalage et ce petit parfum qui est celui d'une autre époque, mais qui est un peu celui des confessions de Rousseau, tout semble comparé à son génie. Mais je veux dire, c'est ce parfum de, à la fois très naturel qu'il peut y avoir dans les dialogues de Diderot ou dans les confessions de Rousseau. C'est-à-dire, je trouve que c'est un modèle extraordinaire en termes de clarté à la fois, de proximité du lecteur, hein, Diderot qui intervient tout le temps en parlant au lecteur au milieu de ses dialogues, etc. Et en même temps avec une langue très très classique. Et bon, moi c'est un des plaisirs que j'ai, c'est d'adapter le style que j'utilise à l'histoire que je raconte. Parce que si j'avais utilisé ce style pour raconter Checkpoint qui se passe pendant la guerre en Bosnie en 1994, j'aurais été totalement ridicule. C'est évidemment pas adapté. Mais inversement, écrire une histoire comme celle-là et la mettre surtout dans la bouche de personnages en utilisant un style qui serait celui d'aujourd'hui, c'est passer à côté de quelque chose. C'est passer à côté de ce qui fait la beauté de ce siècle et ce côté voilà, ça, tout ça se passe avant la Révolution française, hein, puisqu'il meurt en 1786. Et d'ailleurs le deuxième voyage, permettez juste d'en dire un mot, ce deuxième voyage qu'ils font en France quand ils vont essayer de sauver l'affaire de Madagascar, ils vont revenir en France, et la France aura beaucoup changé dans ce deuxième voyage. Au cours de ce deuxième voyage, ce sera déjà la France de Louis XVI, ce sera la France qui est grosse de la Révolution française. Les rapports entre la monarchie et le peuple, la bourgeoisie, tout ça a beaucoup, beaucoup changé. Il y a beaucoup de violence, il y a une forme de désespoir, il y a une forme de révolte. Le goût pour les explorateurs a cessé et il a été remplacé par le goût de la conquête, c'est-à-dire qu'on est déjà entré dans la question, est-ce qu'on peut damer le pion aux Anglais, aux Espagnols, etc., placer nos pions. C'est déjà plus comme ça l'exploration pour elle-même qu'il avait connue auparavant. Et c'est finalement dans ce rapport, dans cette relation entre les deux moments où ils connaissent la France, qui font qu'on a un double regard, c'est-à-dire on a un regard européens sur l'Afrique, etc. Mais on a aussi le regard sur la France de gens qui viennent de très loin, qui viennent de Madagascar et qui finalement vont observer à des temps différents ce qui se passe dans notre propre pays.
Alors vous avez mentionné le décès du héros. Il meurt à 40 ans, mais sa veuve lui survit. Alors je voulais quand même lire le dernier passage de la postface. On est quand même à Bordeaux, donc je voudrais simplement lire ce qu'il y a de lire. Nul ne sait avec certitude ce qu'il advint d'Athanasie et de son fils. Certains pensent qu'ils sont restés dans l'île et que Charles, donc leur fils, serait même devenu une sorte de guerrier indigène. D'autres mentionnent la présence dans la ville de Bordeaux, au début du 19e siècle, d'une veuve Banjovski qui était arrivée sur un bateau en provenance d'Afrique. C'était, paraît-il, une très belle femme qui parlait le français avec un accent dont nul ne parvint jamais à déceler l'origine. Elle aurait négocié un stock de pierres précieuses dont elle ne précisa jamais la provenance, mais qui était d'une taille fabuleuse. Avec cet argent, elle aurait acheté une maison dans la campagne et y aurait vécu jusqu'à sa mort, en y donnant des fêtes et en recevant des voyageurs venus de la capitale. Quelqu'un prétendait qu'elle avait choisi cette propriété sans même la visiter, simplement séduite par le nom de la région, l'Entre-deux-Mers. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On part en chasse, hein ?
Vous savez, Benyovski n'est pas mort. C'est ce que j'ai constaté en allant à Madagascar récemment, sur ses traces. Et je suis allé voir donc l'endroit où il a été tué. Et on a donc des documents très précis pour déceler l'endroit, la colline sur laquelle les choses se sont passées. À cet endroit-là, les Slovaques, qui l'honorent périodiquement, qui font des missions, les Slovaques, les Hongrois, etc., se revendiquent ce personnage, ils font des monuments, ils dressent des monuments.
Y compris à Madagascar. Hein.
À Madagascar, c'est à Madagascar, oui, surtout. Ouais. Et alors, ils se bagarrent entre eux, alors, parce que...
À l'époque, les frontières n'étaient pas très fixées. Hein.
Non, mais enfin, les Slovaques le revendiquent, notamment les Slovaques, hein, beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de héros en Slovaquie, peut-être, dans l'histoire, j'en sais rien. Toujours est-il que...
Parce que son château, le château du père, est aujourd'hui... Enfin, on le localise en Slovaquie.
En Slovaquie. Et donc, les Slovaques ont édifié un petit monument à l'endroit où il est mort. Et quand j'y suis allé, ce monument avait évidemment disparu. Les Malgaches l'ont pris. Mais les Malgaches du coin, là, de la côte Est... se sont posés des questions, visiblement, sur cette histoire et se sont dit « qu'est-ce qu'ils viennent faire là ?» S'ils ont mis un monument, c'est qu'il doit y avoir un trésor. Et ils ont commencé à creuser. Et donc, non seulement il n'y a plus de monument, mais maintenant, il y a un grand trou qui fait presque 30 mètres de profondeur. Et j'ai pris des photos, c'est absolument étonnant. Et au bord du truc, il y a même une espèce de gorge, parce que c'est la corde avec laquelle ils remontent les seaux de terre, etc. Et quand j'y suis allé, donc c'est... Il y avait deux types qui, visiblement, étaient en train de creuser, qui avaient un petit campement juste à côté, qui sont enfuis à notre arrivée. Mais il y avait une casserole qui chauffait sur deux pierres. Et donc, ils étaient là et ils continuent de creuser. Et au fond, cette idée, j'aimais beaucoup cette idée que, au fond, pour certaines personnes, que ce soit les Slovaques ou les Malgaches, ce personnage, d'une certaine manière, n'est pas mort. L'histoire continue, d'une certaine façon. Et... Alors, l'histoire de sa femme est un peu plus compliquée. En réalité, on ne sait pas. Mais il y a le nom s'est perpétué aux États-Unis. Il y a des Benyovski aux États-Unis qui se revendiquent de sa famille. Et il y a eu des expositions, d'ailleurs, à Washington, sur Benyovski et sur le lien entre Benyovski et les États-Unis, sur les contacts avec George Washington, etc. Et il y a des passionnés en Europe de ce personnage, et à Madagascar aussi. Il y a notamment un dentiste allemand, marié avec une malgache d'origine chinoise, qui habite la ville tout à fait à côté, et qui a récupéré dans son garage les canons de Benyovski, qu'ils ont retrouvés sur ce tertre où il a livré ce dernier combat. Et ces canons, alors il y en a un petit qu'il a mis dans son salon, et puis le grand, il l'a mis dans son garage, en attendant mieux. Ils lui ont été, en quelque sorte, confiés, et d'une certaine manière, c'est bien, comme ça, ils ne disparaîtront pas, parce qu'ils le gardent très précieusement, avec des tas d'autres documents, d'ailleurs, sur ce personnage, qui reste vivant. Et j'aime bien cette idée. Par exemple, j'ai écrit sur Jacques Coeur, parce que Jacques Coeur, dans ma région, à Bourges, les Berrichons sont persuadés que Jacques Coeur, quand il est arrivé à Kyo, dans cette ville, dans cette île où il est mort, qu'en réalité, il n'est pas mort là, et qu'il a rencontré quelqu'un, une femme avec laquelle il est parti, etc. Si vous les poussez un peu, les Berrichons, ils vous expliquent qu'il n'est pas mort. Alors, moi, je leur dis, écoutez, vous serez très triste, mais je crois qu'il est mort. Et Benyovski, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est des personnages qui, si vous voulez, ont une légende tellement puissante que, au fond, on a envie de les croire vivants. Et on a envie de penser que quelque chose en eux à résister au temps. Simplement, ce qui résiste au temps, c'est leur histoire, c'est tout, et peut-être leur voix. Et c'est pour ça que je suis content de leur en avoir redonné une.
Là, à un moment donné, Benevski fonde une ville, enfin une capitale. Mmh. Je me suis demandé si c'était les origines de la ville d'Antananarivo.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, parce qu'en fait, si vous voulez, dans Madagascar, en fait, est constitué de hauts plateaux centraux, avec donc une ethnie tout à fait particulière qu'on appelle les Mernes, et puis les peuples côtiers, avec à cette époque une influence de la France, enfin des marchands français sur la côte est et des marchands arabes sur la côte ouest, bon, notamment de Mascate et de enfin, toutes les Omanais qui venaient sur la côte ouest. Alors, en fait, Benevski, lui, il a pris donc pied sur la côte est, puisqu'il partait de l'île Maurice, il s'est fixé là. La capitale qu'il a créée, qu'il a appelée Louisbourg, en hommage au roi de France, Louisbourg a disparu. Aujourd'hui, ça a été...
Ça, c'est un comptoir côtier, ça.
C'est côtier. Et en fond, toute l'histoire de ce qu'il appelle l'île de Madagascar, c'est l'histoire des peuples côtiers. Alors, il avait avec lui un interprète, un Français, qui s'appelait Maillère, et qui l'a envoyé un peu partout. Et Maillère est allé sur les hauts plateaux, où il a eu quelques contacts avec les Mernes, mais finalement très peu. Donc, au fond, la royauté supposée de Benevski porte essentiellement sur les peuples côtiers. Et probablement pas tous, d'ailleurs. C'est une île qui est quand même immense, hein, donc et des moyens relativement limités. Mais ça a peu touché les peuples centraux. Et en revanche, après, au XIXe siècle, quand il y a eu les grands empires Mernes, justement, avec les empereurs Mernes, ce sont des empereurs qui venaient des hauts plateaux et qui ont exercé leur autorité sur...
L'ensemble de l'île.
Sur l'ensemble de l'île. Mais l'histoire de Benevski est différente.
Le tour du monde du roi Zibeline, roman chez Gallimard, voilà, à mettre entre toutes les mains. Merci beaucoup.